Europe 1.
La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Et nous voilà partis donc jusqu'à 19h dans la semaine politique d'Europe 1, JDD Paris Match, sachant qu'à 19h15, vous avez rendez-vous avec le magazine Pour l'écho, partenariat avec Europe 1 pour évoquer les enjeux européens. La couverture d'ailleurs résume bien les choses. Face aux requins chinois, américains et russes, que peut-on faire? Que peut bien faire un banc de poissons que sont les pays d'Europe, même unis? Réflexion à suivre. Cédric Chasseur se tient prêt à tout moment sur le cours central, sur le Philippe Châtrier. Puisque ce qui se passe en ce moment, je le disais, et Cédric le disait également, est absolument exceptionnel entre Rafael Nadal et Alexander Zverev dans cette demi-finale. Et puis la semaine politique, tout de suite avec autour de moi Jérôme Béglé, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général du Journal du Dimanche, bonsoir à Bruno Jeudy.
Bonsoir.
Rédacteur en chef politique à Paris Match, et bonsoir à Louis de Ragnel.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Chef du service politique d'Europe 1. Premier sujet de discussion, si vous le voulez bien, messieurs, il est apparu notamment dans le journal L'Opinion hier et donc dans la chronique de Nicolas Bétou, les tenues des jeunes en classe, que ce soit au lycée, au collège, plus au lycée, des abayas et camis qui ont fait leur apparition ces derniers mois aux portes de plusieurs lycées. Les élèves, garçons ou filles, revendiquent le port de ces tenues islamiques, longues robes ample, parfois assorti d'une capuche, tunique masculine tombant jusqu'aux pieds, souvent portée par les musulmans adeptes d'un wahhabisme rigoriste qu'ils qualifient de culturel. Des établissements mettent leur veto, d'autres hésitent sur l'attitude à adopter. Plusieurs académies sont concernées. Voilà ce qu'écrit l'enquête de l'Opinion sur ce phénomène dont on ne connaît pas encore véritablement l'ampleur. Emmanuel Macron était à Marseille avec son ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. Et sur ce sujet qui va donc revenir à ce dernier, écoutez ce qu'en dit le chef de l'État interrogé par Jacques Seret.
Quand il y a des épidémies, ben, il faut qu'il y ait des symptômes et on mesure. Donc nous sommes en situation constamment de le mesurer. Donc on fait remonter, ça c'est la responsabilité de Monsieur le ministre, ces informations. Et là-dessus, je vais être très clair, la politique que je veux conduire est toujours la même, celle de la vérité. Il doit y avoir aucun tabou, aucun interdit. Et non plus aucun fantasme. Et donc moi je veux la vérité, la clarté sur tous les chiffres. Et ensuite je veux que la loi de la République s'applique. Et la loi est très claire pour tous les élèves dans nos écoles. Il n'y a pas de signe religieux quel qu'il soit. Pourquoi ? Parce que nous formons des citoyens en devenir. Et donc ces citoyens en devenir arrivent dans une situation où on produit des conditions d'égalité pour accéder au savoir. Et donc c'est aussi pour ça que je veux qu'on continue d'investir dans la formation de nos enseignants pour qu'ils puissent répondre parfois à des situations qui sont très difficiles ou qui peuvent être tendues. Donc je vais être très clair sur ce sujet. Nous allons avec Monsieur le Ministre regarder, mesurer et répondre avec la plus grande clarté à toutes les situations qui ne respectent pas la loi de la République.
Voilà, donc Emmanuel Macron, pas de tabou, pas d'interdit, pas de fantasme, Jérôme Béglé. Que pensez-vous de cette parole présidentielle d'abord avant de s'attaquer au sujet ?
Il a un talent indéniable pour noyer le poisson. Et ça, je dois dire que là, il m'épate. Chaque semaine et chaque mois de plus en plus, c'est-à-dire qu'on répond à une question, genre on met une boule bleue dans la machine et ça ressort un carré vert et tout le monde a l'air content. Mais là, il ne répond pas du tout à la question. Mmh. Bon, à la question, bon, alors, là, je vais continuer dans ma diatribe en étant vieux con. Jusqu'il y a encore 20 ans, 25 ans, 30 ans, on voulait éliminer, en tout cas gommer les différences sociales à l'école. On portait des uniformes. Mmh. Ça permettait d'éviter les différences entre, en gros, les riches et les pauvres. On va dire les choses entre les gens des quartiers favorisés, les élèves des quartiers favorisés et ceux des quartiers défavorisés. Puis ceci s'est un peu estompé, en tout cas dans le public et très largement aussi dans le privé. Je pense qu'il ne serait pas inutile de réfléchir à cela. Un uniforme, outre que ça évite de faire un distinguo,
comme en Grande-Bretagne, c'est encore le
comme en Grande-Bretagne, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres, en Suisse aussi, dans beaucoup de d'établissements, dans beaucoup de pays, ça permet d'éviter qu'il y ait un vêtement qui distingue en bien ou en mal, en tout cas qui crée une différence sociale, une différence religieuse, une différence vestimentaire et donc à la fin culturelle entre les uns et les autres. Je pense qu'on serait bien avisé de repenser le problème.
Bruno Jeudy pour Paris Match.
Moi, je ne crois pas qu'il faille revenir à l'uniforme à l'école ou à une blouse ou quelque chose comme ça. En revanche, je pense qu'il faut appliquer de manière stricte la loi votée sous le deuxième quinquennat de Jacques Chirac, qui est la loi d'interdiction des signes ostentatoires religieux à l'école. Heureusement que cette loi a été votée et la gauche a beaucoup hésité, n'a pas voulu le faire en son temps. D'autres à droite avaient hésité, lui l'a fait. Et donc il faut appliquer strictement
cette... Mais à partir de quel moment c'est ostentatoire? Est-ce que vous pouvez dire...
Peut-être qu'il faut redéfinir, puisque là vous avez bien énuméré ces types de vêtements qui sont des signes ostentatoires religieux. Peut-être qu'il faudra... élargir cette loi, puisque la loi, je le rappelle, ça concerne essentiellement le voile, et là, j'allais dire presque la taille du voile, enfin, en tous les cas, tout signe ostentatoire qui, effectivement, jusqu'à présent, concernait d'abord et exclusivement presque les femmes, les jeunes filles à l'école, donc peut-être qu'il faudra revoir, mais je crois que c'est ça qu'il faut, c'est cette voie-là qu'il faut emprunter. Je suis assez d'accord, comme le dit Michel Sardou dans Paris Match, Emmanuel Macron a un talent fou pour noyer les choses sous des tas de mots. Et il se paie beaucoup de mots. J'observe en tous les cas que pour sa première visite, Pape Ndiaye n'a pas dit un mot.
Oui, mais peut-être qu'il n'avait pas le droit de dire un mot, mais ça on le saura plus tard, comme on dit.
Oui, enfin...
Affaire à suivre.
Oui, mais il n'est pas, lui, tenu au droit de réserve, puisqu'il n'est pas candidat aux élections, donc il pouvait tout à fait parler. Bruno Le Maire a donné des interviews pendant toute cette période.
Louis de Ragnel.
Moi, ça me pose un vrai problème de cohérence. Qui croire? En fait, Emmanuel Macron, lorsqu'il était en campagne à l'extérieur... expliquait quasiment que le voile était l'allégorie du féminisme. Et puis tout d'un coup, dès qu'on se retrouve subitement à l'école, eh bien, le voile est synonyme de la régression. Et du coup, je trouve que, au-delà de la loi, parce qu'en fait, là, on s'en tient strictement à la loi, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est pas une question de vêtements. Ça pose problème, en fait. C'est la place de l'islam qui est de plus en plus visible dans le pays, qui pose question. Et en fait, on va pas pouvoir vivre dans une société où une femme va enlever son voile dès lors qu'elle dépose ses enfants à l'école, puis peut le remettre lorsqu'elle les accompagne pour les sorties scolaires, puis doit l'enlever. Si vous voulez, il y a un problème de cohérence globale. En fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le voile, moi je trouve tout simplement ce voile-là, pas le petit fichu, mais le voile, vraiment la grille, le voile où les personnes se cachent, les femmes se cachent les yeux, ou alors même les tenues pour les hommes hein, qui sont vêtus des pieds à la tête avec des tenues qui sont pas conformes en fait à notre manière de vivre en France, eh bien je pense qu'un jour ou un autre, il faudra apporter une réponse, et une vraie réponse politique qui peut pas se trouver uniquement avec des rappels à la loi, parce qu'on voit bien, aucune réponse n'est satisfaisante pour les Français. La deuxième chose, c'est qu'on pensait que ces questions d'identité, en fait, avaient complètement disparu. Et on voit que, je pense que tous les déplacements d'Emmanuel Macron, presque tous à venir, il y aura des questions d'identité liées à la place de l'islam en France qui seront posées. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas uniquement la question, on l'a dit tout à l'heure, d'un vêtement. Je suis d'accord avec ce que disait Jérôme Béglé sur le fait que le rétablissement de l'uniforme à l'école publique comme privée peut être une bonne solution. Et je pense qu'il y a un problème de fond avant la question du vêtement, parce que le vêtement est le symptôme de marqueurs sociaux, et vous avez parfaitement raison, mais aussi d'acceptation ou de rejet à la société française. Et cette tenue-là est clairement un signe d'hostilité à tout ce qu'on représente.
Alors, je vous arrête tous les deux, et je reviens au tennis, puisque Europe 1 radio officielle de Roland-Garros, il s'est passé un drame. Oui. Sur le court central, il y a quelques secondes, Cédric Chasseur.
Ah oui, et là, tout le public est en train d'applaudir Alexander Zverev qui se tordait de douleur après un point. Il avait perdu le jeu à 6 partout. On fait rentrer même une chaise roulante parce qu'il se tordait de douleur. Il s'est tordu la cheville sur une glissade. Le pied s'est dérobé et on entendait les cris de douleur d'Alexander Zverev, limite en pleurs. Et là, il est obligé d'être supporté pour aller se porter sur cette chaise. On va aller l'ausculter. Raphaël Nadal est à côté de lui en train de vérifier que tout va pour le mieux, parce qu'on était vraiment dans une bataille de 3h05, on n'avait même pas terminé ce deuxième set qui allait même se prolonger sur un tie break, et vraiment sur ce dernier point du jeu, eh bien il s'est écroulé, et on a vraiment vraiment beaucoup de craintes concernant la santé d'Alexander Zverev, qui n'a absolument pas réussi à mettre le moindre poids sur cette jambe droite. Il vient de quitter le court sous les applaudissements du public. Tout le monde est debout, tout le monde est circonspect, parce que vraiment c'est le j'ai pas envie de dire le dénouement, mais presque d'un match incroyable dans tous les sens du terme. Donc voilà, on en est à 7-6 pour Nadal, 6 partout. Le jeu est interrompu, Rafael Nadal est en train de parler avec l'arbitre, et Alexander Zverev est parti en fauteuil roulant sous les gradins vers les vestiaires pour se faire ausculter. Dès qu'on a des nouvelles, évidemment, je vous préviens, mais pour l'instant le jeu est arrêté.
le stade est complètement atterré devant cette nouvelle, cette demi-finale qui nous tenait en haleine absolument. Cédric, juste parce que vous êtes évidemment dans la précipitation, passé extrêmement rapidement sur ce qui s'est passé réellement. Nous, on a vu sur les écrans de contrôle un Zverev d'abord allongé qui a eu énormément de peine à se relever. Vous dites qu'il a glissé, c'est ça ?
Bah en fait, sur le point, la fin du point, il est sur une glissade pour terminer, ou en tout cas, il était en train de jouer son dernier coup qu'il a manqué. Et tout de suite, on a entendu, parce que moi, c'est surtout plus le bruit, parce que j'étais en train de suivre la balle, que visuellement ce que j'ai vu. Je l'ai vu s'écrouler, et vraiment le bruit, parce qu'on a le retour, le signal international dans les oreilles, on a tout de suite entendu les cris de douleur, mais vraiment stridents, perçants de Zverev, vraiment, ouais. C'est pour ça qu'on craint une grosse blessure, au minimum une grosse entorse, je pense, pour Zverev, en espérant que, vraiment j'ai du mal à y croire, mais qu'il puisse continuer ce jeu.
Voilà, c'est ça, les aléas du direct, les aléas de ce tournoi de Roland-Garros qui, voilà, c'est à la fois les aspects positifs et les aspects négatifs. On en a vu des accidents, l'accident de pied de je sais plus quel joueur autrichien absolument incroyable. On a vu pratiquement son pied partir, se décrocher de sa cheville. Il y avait eu évidemment l'attaque au couteau de Monica Seles. Il y a comme ça des moments dans ce tournoi, particulièrement de Roland-Garros. Bien sûr, il y a d'autres tournois dans le monde, mais voilà, Roland, c'est toute une histoire et on vous l'a fait vivre sur Europe 1. Bien sûr, on revient avec vous, Cédric Chasseur, dès que vous avez des nouvelles d'Alexander Zverev, savoir si ce match absolument inouï va pouvoir reprendre ou pas. Et nous, avec Bruno Jeudy, Jérôme Béglé et Louis de Ragnel, on se retrouve dans un instant pour évoquer les autres sujets de la semaine politique Europe 1 JDD Paris Match. À tout de suite.
La semaine politique Europe 1 Paris Match JDD, Pierre de Villeneuve.
Avec autour de moi dans le studio Europe 1, ici sur les allées de Roland-Garros, Bruno Jeudy de Paris Match, Jérôme Béglé du JDD et Louis de Ragnel d'Europe 1. Et nous sommes tous les trois, et bien sûr beaucoup plus, dans le cours central, consternés, atterrés, attristés. Cédric Chasseur, puisque Alexander Zverev vient d'arriver avec des béquilles.
Oui, et il vient de lever sa béquille gauche pour saluer le public qui... Et debout et qui le salue. Il est revenu en effet avec des béquilles, sans chaussures à son pied droit, et il ne pose absolument pas de pied par terre. Il vient de terminer ce match, il est déclaré forfait pour le reste. Il abandonne trop durement touché à cette cheville après cette glissade, et donc après plus de 3 heures de match qui ne s'est pas forcément terminé comme on l'avait espéré, au terme d'un combat de titans acharné, 7-6-6-6 et abandon de Zverev, et bien Rafael Nadal se qualifie et pourra dimanche disputer une finale qui pourra l'emmener peut-être vers sa 14e victoire ici à Roland-Garros.
Regardez le visage, Cédric, de Rafael Nadal. J'ai entendu dire ces derniers temps par des mauvaises langues que Rafael Nadal était une machine. Vous pouvez d'ailleurs, Jérôme Béglé, Bruno Jeudy et Louis Dragnel participer à notre débat, puisque c'est aussi ça la vie. Hein. On a entendu dire quand même dernièrement que Rafael Nadal était une machine. Vous vous rendez compte ? Regardez le visage de Nadal. Il est consterné, attristé. Il y a énormément d'humains là-dedans.
Pour gagner 13 Jérôme fois Roland Garros et peut-être une 14e fois dimanche, il faut être un peu surhumain. Une machine, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'il a l'air très touché. C'est toujours, pour n'importe qui a joué au tennis, quand son adversaire se blesse, qui plus est en demi-finale sur le court Philippe Chatrivier à Roland-Garros, qui plus est gravement, parce que quand on sort avec des béquilles, il ne va pas rejouer au tennis.
Il est arrivé avec un pied nu, c'est-à-dire qu'il a montré que...
Ça porte forcément au cœur, si je puis dire.
Louis de Ragnel.
Rafael Nadal a toujours gagné à la loyale, si on peut parler comme ça. Moi, j'ai le souvenir de matchs extrêmement longs, et donc il y a toujours eu cette fierté d'avoir gagné vraiment à l'usure, d'avoir été vraiment au-dessus de son adversaire. Et puis là, patatras, ça se passe pas comme ça. Donc je pense qu'au fond de lui, il y a quand même une satisfaction, mais aussi
de toute
une déception.
Façon, ouais.
De ne pas avoir remporté comme il a pu le faire par le passé.
Il va y avoir une déclaration. On va peut-être pouvoir... est-ce qu'on peut entendre d'ailleurs Rafael Nadal sur le Chatrivier qui va prendre la parole ?
Sasha. You have any words, Sasha?
Well, very tough, no, and
c'est très
sad for him, honestly, no. He was playing unbelievable tournament.
Il joue un tournoi incroyable.
Yeah, he's a very good colleague on the tour.
C'est un très bon coéquipier sur le tour.
I know how much he's fighting to to win a Grand Slam, but
je sais comment il se bat pour essayer de gagner un tournoi de Grand Slam.
You know, and the only thing that I am sure is he gonna win not one, much more than one. So I wish him all the best.
Qu'un jour il le gagne, il en gagnera et pas qu'un. Alors Rafael Nadal qui répond à Matt Gilander.
Oui, Cédric, c'est à vous. Non,
voilà, je disais simplement qu'il répondait aux questions de Matt Gilander et juste pour rappeler que au moment où il allait se faire soigner, il y allait aussi Rafael Nadal. Il est revenu avec lui, Alexander Zverev, de ses côtés.
Voilà, on va laisser Rafael Nadal continuer sa déclaration, que vous suivrez, bien sûr, que vous pouvez retrouver ensuite en replay sur le site europe1.fr. C'est un moment assez inouï et exceptionnel qu'on vit en ce moment à Roland-Garros. Et Cédric, on vous retrouvera tout à l'heure. Voilà, on a les premiers mots de Rafael Nadal sur cet accident terrible d'Alexander Zverev en demi-finale. Louis de Ragnel, Bruno Jeudy et Jérôme Begley, il y a un embarras là sur le central qui d'ailleurs me donne une bonne transition sur l'embarras sur cette question des tenues à l'école. On se posait effectivement la question de savoir tout à l'heure si dans ce déplacement à Marseille, il y avait un embarras et qui du coup nous a donné cette déclaration présidentielle que vous avez jugé les uns et les autres comme noyer le poisson. Pourquoi est-ce que Pabia n'a pas pris la parole? Peut-être qu'il y a des questions de protocole. Il y a quand même cet embarras sur cette question et même sans le dire, on comprend bien, Louis de Ragnel.
Bien sûr, parce que déjà, Pabia est très attendu, surtout à la suite des déclarations qu'il a pu faire par le passé sur les questions de wokisme, sur les questions de questions raciales, des débats auxquels on est malheureusement de plus en plus habitués en France, mais qui sont des débats assez sulfureux. Et puis, alors, on peut se dire, et c'est d'ailleurs ce que dit l'Élysée, quand il y a un déplacement du président, un ministre qui participe au déplacement ne s'exprime pas. Alors là, c'était un peu spécifique, puisque la prise de parole de Pape Diaye était très attendue, puisque c'était la première fois qu'il participait à un déplacement avec de la presse. Et donc, c'était l'occasion. Moi, je trouve que c'est dommage. C'était l'occasion pour Pape Diaye de s'exprimer, éventuellement de répondre implicitement, indirectement à toutes les attaques qu'il a reçues. Et en tout cas,
peut-être qu'il s'est moins noyé le poisson que le président.
J'en sais rien, parce que j'ai jamais entendu le son de sa voix. Je n'ai, à part au moment de la passation des pouvoirs avec Jean-Michel Blanquer, je n'ai jamais entendu le son de sa voix.
Bon, vous avez entendu le son de sa voix, vous?
Comme ministre, non, mais avant, oui. J'ai toujours pensé que Emmanuel Macron était embarrassé par ses ministres, que ces gens-là l'encombraient. Il préfère avoir des techniciens qui, énarques ou pas énarques, d'ailleurs, lui préparent les dossiers, réfléchissent.
Pensez à quelqu'un en particulier?
Non, mais je pense qu'il aime prendre la lumière seul et il préfère s'exprimer lui-même. Et que des ministres, ça gaffe, ça va trop loin, ça s'approprie une idée ou une... comment dirais-je, une loi qui n'est pas forcément la leur, ça s'exprime à contre-temps, ça va marcher sur les plates-bandes du voisin. Emmanuel Macron, il préfère dire peu de choses, mais les dire lui-même, sans passer par des intercesseurs. On va voir ce que ça va donner avec Pape Ndiaye. Je rappelle quand même que Pape Ndiaye, son cabinet est à 80% le cabinet de son prédécesseur Jean-Michel Blanquer. Hein. Donc a priori...
Pour l'instant, non?
Pour l'instant.
Ouais. Mais, c'est vrai que les cabinets, ça change en cours de route.
Ça change en cours de route, mais...
C'est ce qui pilote quand même.
Je pense que là, c'est piloté de très très près à l'Élysée à Matignon et qu'il va être quand même dans une cage dorée, mais dans une cage.
Bruno Jeudy, est-ce que cet embarras, puisque je vais reprendre les choses telles quelles, risque de peser pour les législatives qui sont dans une semaine?
En fait, l'embarras et le relatif silence de l'exécutif, même si Emmanuel Macron a fait deux déplacements cette semaine et qu'on attend dans les heures qui viennent le contenu de son interview dans la presse quotidienne régionale, interview qu'il a accordée aujourd'hui, globalement, il a fait le choix de gagner du temps. Il a mis 22 jours pour se choisir une Premier ministre, il a mis 25 jours pour un gouvernement, et on voit que l'idée, c'était de réitérer cette stratégie qui s'est révélée gagnante avant le premier tour de la présidentielle, gagner du temps, raccourcir la campagne, éviter les polémiques, fermer les angles morts... survoler éviter les choses trappes et les polémiques, et ça lui a plutôt réussi. Là, on a le sentiment que pour les législatives, c'est un petit peu plus compliqué, et tout ça pourrait se retourner contre lui, parce qu'au bout de 50 jours, il y a quasiment 50 jours, hein, il a été élu il y a 40 jours, 50 jours d'ici les législatives, il ne s'est pas passé grand-chose, et il y a comme une espèce d'élan. Alors, le vent ne soufflait pas très fort, mais enfin, il a quand même été élu avec 58%. Il n'y a pas d'élan. Et du coup,
il y a un Français sur deux en moyenne qui est intéressé.
Oui, et les prévisions de les pronostics ou les prévisions de participation sont extrêmement faibles. Donc Emmanuel Macron prend quand même ce risque. On va voir, peut-être que ce sera un risque gagnant, comme ça l'a été pour la présidentielle. Mais je trouve que là, il a peut-être touché les limites de cette stratégie. Il s'est quand même rien passé, et c'est quand même peut-être la première fois dans l'histoire de la présidentielle. Alors en même temps, on est dans une situation inédite d'un président réélu hors période de cohabitation. Et du coup, dans ce délai assez long de 40 à 50 jours, ce ne sera pas passé grand-chose. Et ça, peut-être que les Français ne vont pas trop comprendre. Ils ne sont pas tous au courant des finesses de nos institutions, effectivement.
Ouais, ça passe en scred, on a l'impression. Hein. Jérôme Béglé pour JDD.
Je suis d'accord avec ce que dit Bruno jeudi. Le maître des horloges a adoré allonger le temps, quoi. On imaginait après sa réélection qu'il allait très clairement fixer un cap, dire voilà mes priorités, 1, 2, 3, voilà ce que je veux faire avant le mois de septembre, voilà ce que je veux faire d'ici la fin d'année, voilà ce que je veux faire au premier semestre, disons 2023. Et là,
Un peu dit à Marseille quand il avait ce grand discours sur l'écologie.
Il l'a dit au moment où il fallait ramasser les voix de Mélenchon. Et puis ensuite, quand il a été réélu, on a senti qu'il y avait déjà une première inflexion. Donc on ne sait pas très bien où on est. On ne sait pas très bien où lui-même est. Donc on est un peu perdu, donc il y a un temps suspendu. Il doit penser que sur son charisme personnel, son équation personnelle, il va remporter ses législatives. Sauf que sondage après sondage, on voit que la majorité s'amenuise, que maintenant, en bas de fourchette, on est sur une majorité relative, que la NUPES, l'Alliance de la gauche, est en train de monter également. Donc l'histoire de ces législatives, elle n'est pas gagnée, elle n'est pas écrite. Et ça, c'est un risque quand même un peu excessif à prendre. Il va sans doute accélérer en dernière semaine. Mais il n'a plus franchement son destin, en tout cas le destin d'une majorité, entre ses mains.
Louis de Ragnel.
Je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Il y a juste une chose, c'est que ça commence à un peu sortir. Il y a quelques conseillers d'Emmanuel Macron qui vous confient qu'en réalité, toute l'indécision en fait est habillée par effectivement le maître des horloges, un retour de la verticalité, de la distance et tout ça, mais qu'en réalité Emmanuel Macron a du mal à trouver des nouvelles idées, a du mal à trouver son nouveau logiciel, et il a d'ailleurs demandé à plusieurs ministres, des conseillers proches, mais aidez-moi, donnez-moi des idées, parce que ce qu'il ne dit pas, c'est qu'en fait il a du mal à en trouver. Il est un peu asséché à la fois par ce quinquennat qui était quand même objectivement difficile, par cette drôle de non-campagne avec en même temps la guerre en Ukraine, où il a essayé de jouer un rôle en tant que président français. Et donc je pense que ce qui va être compliqué pour lui, c'est maintenant, il va falloir qu'il explique clairement aux Français où il veut aller. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que depuis le début du quinquennat, ça nous a un peu amusés, nous, les journalistes politiques. Il y avait une stratégie un peu de la tension permanente. Il créait un peu de suspense. Il y avait toujours des espèces de teasing interminables. Et chez les Français aussi, sans doute, peut-être un peu, ils découvraient ce nouveau président. Et je sens une forme de lassitude, si vous voulez.
C'est un peu, on nous a déjà fait le coup.
On avait tous très envie de savoir qui allait être le nouveau Premier ministre d'Emmanuel Macron. Et puis, bon, le temps interminable de la décision, tout ça pour terminer.
A fait que...
Par Elisabeth Borne, qui est quelqu'un de très compétent et de très bien. Mais à la limite, c'est pas tant le sujet d'Elisabeth.
Il y avait moins d'appétence à la fin.
Non, mais c'est pas une surprise de tirer du chapeau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas quelqu'un de très original par rapport au choix qu'Emmanuel Macron a fait. Et donc, à force
de vouloir... Ça, vous l'avez expliqué sur Europe 1. Il y avait un autre choix. Mais à force et on sait très bien pourquoi ce choix de Catherine Vautrin n'a pas été retenu.
Exactement. Mais à force de vouloir tendre l'élastique et pendant une durée qui est très longue, bien, les gens finissent, je trouve, par se lasser. Et je pense que ça participe à ce que vous expliquez sur le fait que les Français sont un peu lassés et ils ne s'intéressent pas forcément à l'élection législative.
Il y a une forme d'inertie. Et pourtant, on a, dans cette même tambouille de la lassitude, on a Marine Le Pen qui sort du bois, là, à moins de 8-9 jours du premier tour. Et on a Jean-Luc Mélenchon qui continue à dire qu'il sera le futur Premier ministre. Et c'est la même inertie chez les Français en disant... So what? Non, alors, c'est pas ça, Bruno Jeudy.
On est sorti de la présidentielle avec une partition, j'allais dire, en trois parts. Hein. Emmanuel Macron, 27-28%. Marine Le Pen ensuite, et puis Jean-Luc Mélenchon. Les deux pôles de radicalité, et puis le pôle central. On en est là aujourd'hui, j'allais dire, 50 jours plus tard, on en est toujours là, avec un Mélenchon qui a occupé le vide, parce que pour le coup, lui, il a tenu son rôle. Moi, je trouve qu'il touche aussi les limites, parce qu'on voit bien que la mayonnaise, elle a pris un peu à gauche, mais ça déborde pas beaucoup.
Mais Bruno,
Marine Le Pen, elle a raté le départ.
La question, c'est, est-ce que c'est grave, docteur? Parce que il y a une inertie des Français en disant « So what ?» Il y a Mélenchon et Marine Le Pen.
C'est grave.
Il y a quand même une radicalité en face d'un parti
Non, mais c'est grave s'il n'a pas de majorité
centriste.
Absolue. C'est grave s'il n'a pas de majorité absolue. Ce qui joue, c'est quand même la possibilité d'avoir une majorité absolue, faire voter des lois, que la France soit en état
Mais c'est ça. Il y a quelque chose d'important qui se passe.
Politiquement fonctionner.
Et les gens s'en foutent, pardonnez-moi mon vulgarité, mais enfin...
Mais parce que, si vous voulez, on revient dans ces institutions telles qu'elles fonctionnent depuis qu'on a mis en place le quinquennat et inversé le calendrier. Donc, c'est vrai que tous les présidents depuis le quinquennat, mais d'ailleurs, ils ont toujours eu leur majorité. Donc, on n'imagine pas qu'il n'ait pas la majorité. Peut-être sera-t-elle relative, comme le disait... il y avait un risque de majorité relative, comme le disait Jérôme. Je ne sais pas. C'est difficile à dire aujourd'hui. C'est surtout difficile à dire quand vous faites... vous avez des sondages qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence, que vous avez à peu près 60% du corps électoral qui peut-être n'irait pas voter. Là, franchement, c'est celui qui mobilisera le plus son camp. Et à ce petit jeu-là, Emmanuel Macron, il a encore une petite avance. C'est que lui, c'est essentiellement l'électorat âgé qui vote pour les candidats, pour le camp macroniste. Et puis les CSP+. Donc c'est quand même un socle qui, sans doute, se mobilise un peu plus. C'est l'avantage que je lui vois aujourd'hui, plus le mode de scrutin qui ne favorise pas le Rassemblement national dans un second tour.
Jérôme Béglé pour le JDD.
Les stratégies législatives, elles sont clairement posées. Emmanuel Macron a retardé la date d'entrée en campagne comme il l'avait fait pour la présidentielle, en disant ça va plutôt porter bonheur, plutôt porter chance pour la présidentielle. Une campagne courte peut m'être utile pour les législatives. Dangereux, on n'est pas sûr qu'il réitère, j'allais dire, son bon score. Marine Le Pen, elle est partie en vacances quasiment le lendemain suivant, le lundi suivant le second tour. Bon, elle a laissé ses barons prendre le lead. Avec des succès, je dirais, mitigés. Disons que quand la patronne n'est pas là, quand la chatte n'est pas là, les souris ne dansent pas forcément. De façon plus intelligente, Jean-Luc Mélenchon, qui avait disparu de la circulation 5 ans, quasiment en dépression, s'est dit, là, quand même, j'ai pas mal réussi mon coup, je vais être là.
Ouais.
Et c'est lui qui a tenu l'élastique le plus tendu. Après, de l'autre côté, on a, les socialistes étaient tellement groggy de leur score qu'à moins de 2%, ils se sont dit, ça sert à rien qu'on soit là, qu'on soit pas là, de toute façon, personne ne nous écoutera. Et il y a eu la stratégie LR, qui est une stratégie un petit peu différente, c'est, on n'existe pas vraiment au plan national, mais localement, ils font des campagnes à bas bruit dans chacune des circonscriptions, des campagnes pas mal habiles, en disant, après tout, on a ce maillage territorial, on a des barons locaux qui sont assez bons, donc on va essayer de capitaliser sur leur connaissance du terrain, sur leur petite notoriété locale, pour limiter la casse. On va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est assez atypique que chacun a choisi son couloir de nage.
Louis de Raguenel, Europe 1.
Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jérôme Béglé. On a un peu trop oublié que l'ancrage local, c'est un peu tout ce qui reste maintenant aux politiques pour essayer d'être élu. Et pour le coup, les Républicains ont un vrai atout, un vrai avantage pour essayer d'être élu. Mais ça concerne aussi, par exemple, en Occitanie, le Parti Socialiste, les candidats qui sont investis par Carole Delga. Alors, on verra ce que ça donnera. Mais ce sont des candidats, en tout cas, qui sont connus de la population. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est extrêmement difficile d'essayer d'imaginer ce que va donner l'issue de ce scrutin, parce qu'effectivement Bruno Genil disait tout à l'heure, il y a une question de participation, puis il faut bien comprendre que chaque élection législative, en fait, c'est à chaque fois il y a un cas particulier, parce que vous avez des logiques de vote qui sont pas du tout les mêmes qu'à la présidentielle. Vous pouvez être un électeur de gauche, Pierre par exemple, et voter pour un député LR de votre circonscription ou La République En Marche,
parce qu'il est efficace,
parce que vous l'appréciez, parce que vous vous reconnaissez en lui, parce que vous le trouvez et donc ça, pour le coup, ça échappe un peu, je trouve, à toutes les projections qu'on peut faire de manière nationale. Et j'ai pas lu pour l'instant de projections détaillées circonscription par circonscription. C'est un travail de fourmi. Alors peut-être que vous l'avez vu, Bruno.
Mais
c'est des configurations qui sont tellement complexes. Vous savez, parfois vous avez 4, 5, 6 candidats. Eh bien, à chaque fois, il faut faire un sondage par circonscription. Et ça, pour le coup, ça n'existe pas.
Jérôme Béglé.
Nous sortons dans le journal du dimanche après-demain un sondage sur la 7e circonscription de Paris, celle qui oppose la candidate NUPES Caroline Mécari au ministre Clément Beaune. Et vous allez voir, les résultats sont étonnants.
On n'en sait pas plus, ça s'appelle du teasing. Non, mais le journal.
J'ai le droit de me faire un peu de pub.
Jérôme Béglé a choisi la bonne circonscription parce qu'il y a 15 ministres qui sont dans la bagarre, la bataille législative. Et à mon sens, il y en a au moins 4 qui sont dans des situations compliquées. Je rappelle la règle. Emmanuel Macron a dit que les ministres qui seraient battus quitteraient le gouvernement. Il en a fait en quelque sorte des cibles. Je rappelle que c'est une règle qui a déjà fonctionné une fois. C'était Alain Juppé en 2007. Donc là, il y a quelque chose qui peut se passer au niveau gouvernemental et ça peut aussi avoir des conséquences. On verra aussi le score de Damien Abad, notamment.
Damien Monchalin.
Amélie Montchalin, Stanislas Guérini. Il y a des ministres qui ne sont pas assurés de retrouver leur portefeuille. D'abord leur portefeuille, parce qu'ils seraient battus. Puis il y a certains qui vont en conquête. Hein, c'est le cas de Clément Beaune, parce que lui, il n'est pas député sortant.
Ce que dit Bruno Joly ne préjuge pas du sondage de dimanche. Il faudra quand même que...
Oui, oui. Absolument, mais nous avions l'intention de lire le journal du dimanche, mon cher Jérôme Béglé.
Si vous en parlez, c'est parce que spontanément, on peut dire Clément Beaune l'emporte facilement. Et donc, j'imagine que si vous avez fait un sondage et qu'il est intéressant, il y a peut-être quelque chose de contre-intuitif qui donne peut-être un Clément Beaune pas aussi haut que ça. Je sais pas, j'essaye de...
Oui, Dragnel, vous avez quand même pas des talents de Madame Irma, enfin pas encore.
Non, mais on peut essayer.
Ou alors, si vous voulez, on peut, pour la rentrée prochaine, imaginer une rubrique pour vous où vous prédisez l'avenir ou faites l'horoscope.
Non, mais ce que je note, c'est que c'est pas un sondage attendu.
Présidentielle, c'est une circonscription qui est plus compliquée.
Oh là là, ils ont aucun humour, c'est terrible. Bon, les amis.
Plus de moi sur ce sujet.
Jérôme Béglé, Bruno Jeudy et Louis Dragnel sont là. Je vous rappelle quand même ce drame intersidéral qui s'est passé tout à l'heure sur le cours central avec l'accident d'Alexander Zverev en pleine demi-finale face à Rafael Nadal qui a dû abandonner. Nadal qualifié donc pour la suite. Et là, la deuxième demi-finale qui arrive tout à l'heure entre Casper Ruud et Marin Cilic. On retrouvera d'ailleurs Cédric Chasseur juste après cette petite page de publicité. À tout de suite.
La semaine politique, Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Avec à mes côtés Louis de Ragnel d'Europe 1, Bruno Jeudy de Paris Match et Jérôme Béglé du JDD et ces chassés-croisés, j'allais dire. Vous connaissez les chassés-croisés des vacances, ben là c'est pareil. Devant nous, les allées de Roland-Garros, le chassé-croisé entre ceux qui étaient là pour la journée et ceux qui sont là pour le soir et qui vont donc suivre l'autre demi-finale, Casper Ruud contre Marin Cilic. Cédric Chasseur, en attendant ce match que vous attendez bien sûr vous aussi oui. Pour Europe 1, résumé des épisodes précédents avec cet accident terrible sur le central.
Oui, un match fou entre Rafael Nadal et Alexander Zverev. Il en était dans la fin de cette deuxième manche. Rafael Nadal avait gagné la première manche 7-6 après 98 minutes de jeu, plus d'une heure 30. On était quasiment à même hauteur de temps, 95 minutes à 6 partout. Le dernier point à 6-5, remporté par Rafael Nadal sur son service pour justement nous emmener au tie-break. Et là, Alexander Zverev, sur ce dernier point, qui en glissant s'écroule, la cheville qui se dérobe, qui tourne, les images font froid dans le dos, comme les bruits, les cris de douleur d'Alexander Zverev qui reste au sol. Tout le monde se précipite vers lui, y compris Rafael Nadal, pour un peu prendre de ses nouvelles. Il se relève et on lui amène même un fauteuil roulant. Il ne peut absolument pas mettre de poids. Il a les larmes aux yeux, l'Allemand. Vraiment beaucoup de douleur. Il est emmené dans les vestiaires, il est ausculté. Et il revient avec des béquilles, le pied sans chaussures, le pied droit sans chaussures. Et puis, évidemment, il serre la main de l'arbitre. Il tombe dans les bras de Rafael Nadal et il abandonne après un match de plus de 3 heures et de seulement un set et quasiment un deuxième set complété. Et Rafael Nadal, donc, qui va disputer dimanche sa 14e finale. Notez tout de même qu'il est le deuxième plus vieux joueur le jour de son anniversaire. Il a 36 ans aujourd'hui, le deuxième plus vieux joueur de l'histoire du tournoi, histoire qui date quand même depuis 1925, à atteindre la finale. Et s'il gagne dimanche, il deviendrait le plus vieux joueur de l'histoire à gagner Roland-Garros.
Merci Cédric Chasseur en direct du central de Roland-Garros qui en ce moment est vide et qui attend Casper Ruud et Marin Cilic. Vous nous parlerez des enjeux de ce match bien sûr tout à l'heure dans le journal de 19h. Retour donc avec nos amis éditorialistes et journalistes politiques pour justement parler d'un autre stade, celui du grand stade, le Stade de France, celui qu'on aime tant et où il s'est passé effectivement cette affaire du stade continue, la France sifflée hors-jeu, l'affaire du stade encore cette semaine, y compris au niveau international. Hein, il faut dire que la France est pointée du doigt par le monde entier, que certains partenaires étrangers ne sont pas du tout rassurés pour Paris 2024. Cette semaine, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a été auditionné devant la commission des lois au Sénat. C'était mercredi. Il a répété que le fiasco était grandement dû aux 30 à 40 000 faux billets vendus, loin des 2800 formellement pourtant identifiés. Ce matin encore, un sondage Odoxa montre que les trois quarts des Français ne croient pas en cette version de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur de reconnaître néanmoins ce mercredi l'échec de certaines pratiques de la police. On l'écoute.
Il y a eu des gestes inappropriés et disproportionnés d'un certain nombre de la part de policiers ou de gendarmes mobiles qui ont été documentés. Je veux dire qu'il y a deux saisines IGPN, en tout cas deux signalements. Je veux dire que lorsque les Madrilènes et les Anglais pourront déposer plainte, ils pourront aussi faire des saisies IGPN, on leur expliquera bien évidemment. Et j'ai vu personnellement deux faits où manifestement l'ordre public et l'utilisation du gaz lacrymogène étaient contraires aux règles d'emploi. Et j'ai demandé des sanctions au préfet de police pour ces deux responsables des forces de l'ordre.
Voilà, avant de donner la parole à Bruno Jeudy pour cet article dans Paris Match, la France sifflée hors jeu, Louis de Ragnel, juste sur cette déclaration du ministre de l'Intérieur sur ses pratiques policières.
Non, mais on voit clairement en fait que l'enjeu du gouvernement, c'est d'attirer l'attention sur les fraudeurs, sur les Anglais qui auraient semé le trouble. En réalité, les Français, ce qu'ils ont vu et ce qui les a choqués, c'est pas ça. Ce qui les a choqués, c'est de voir des supporters se faire dépouiller par des racailles de Seine-Saint-Denis, et en plus, il y a plein de témoignages aussi d'attouchements sexuels.
Enfin, on les voit dans Paris Match.
De choses vraiment graves. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que donc le gouvernement a nié pendant pas mal de temps, pas mal de jours, le fait qu'il y a eu ce qui a choqué les Français. Donc le gouvernement a nié ça parce que ça reflétait un échec à la fois de la Seine-Saint-Denis, parce qu'il faut pas stigmatiser, parce que d'ailleurs Gérald Darmanin l'a dit lui-même, ceux qui parlent de ça, ceux qui véhiculent ça, en fait, sont des gens d'extrême droite. Et c'est là où la stratégie en fait peut ne pas fonctionner très longtemps, parce que eux, les Français, ils ont vu ce qui s'est passé, les images sont extrêmement claires. Et d'ailleurs, une petite chose, c'est que vous regardez le dispositif de maintien de l'ordre qui a été mis en place pour le match de ce soir pour France-Danemark, vous constaterez une chose, c'est que l'effort policier, il a été mis sur un seul aspect, pas du tout sur le maintien de l'ordre pour les supporters qui viennent, uniquement des effectifs de sécurité publique de BAC locaux, donc des gens qui, des policiers, des effectifs qui viennent du 93, précisément pour éviter, pour lutter contre toute la racaille en fait qui vient de ce département. La deuxième chose, et après j'en finis par là, j'en ai fini, sur Gérald Darmanin qui pointe deux lampistes en fait, deux fonctionnaires de police ou de gendarmerie qui ont utilisé du gaz. Il y a quelque chose quand même d'assez presque indécent, de gênant, parce qu'en fait les policiers qui ont gazé, bien sûr qu'une image de quelqu'un qui se fait gazer c'est choquant, mais en fait ils ont obéi aux ordres. S'ils sont dotés de gaz lacrymogène, c'est bien pour les utiliser alors à bon escient, mais aussi nous on est bien au chaud là, on est à côté de Roland Garros, tout va très bien. Faut imaginer ce que c'est que quand vous êtes 4-5 policiers et que vous faites face à 500, 600, 1000, 2000 personnes qui veulent vous attaquer, eh bien les seules armes dont vous disposez, ce qu'on appelle les armes de force intermédiaire, c'est le lanceur de balles de défense, le LBD, c'est le gaz lacrymogène, et heureusement que ça existe, parce que parfois le gaz lacrymogène permet d'éviter les armes beaucoup plus violentes que sont les armes létales, donc les armes à feu.
Bruno Jeudy, la France sifflée hors jeu, c'est vous qui signez l'article.
Les images ont fait le tour du monde, c'est comme ça, une Ligue des Champions, c'est 400 millions de téléspectateurs, c'est un événement international de première ampleur, c'était même quelque part une espèce quand même de répétition générale pour la France qui va organiser deux des plus grands événements sportifs du monde, dans 15 mois la Coupe du Monde de rugby, dans 22 mois les Jeux Olympiques de Paris. Alors évidemment, le public peut être différent, mais enfin c'est des événements de très grande ampleur. Alors après, Gérald Darmanin, il a des arguments à faire valoir. La France a hérité de cet événement 3 mois avant. Donc ça prend du temps aujourd'hui d'organiser des événements qui sont de très grande ampleur. Je cite ses arguments. La question des faux billets, sans doute c'était pas 30 000 ou 40 000 comme il l'a dit, mais il y a eu des faux billets. Ces faux billets ont probablement entraîné l'explosion des tourniquets, des systèmes d'entrée dans le stade compliqués. Mais à l'arrivée, il s'est planté pour une raison simple. C'est que plutôt que nier les exactions, les violences qui ont été commises autour du stade, qu'il aurait dû, j'allais dire Gérald Darmanin, moi il m'a étonné, c'est quelqu'un qui plutôt incarne l'aile droite de cette majorité, et là tout à coup il n'a cessé de nier. Plutôt que nier, plutôt que ne pas présenter ses excuses, ce qu'il a fini par faire devant la commission des sénateurs, il aurait dû le faire tout de suite, et à mon avis les dégâts auraient été moindres, et il n'aurait pas eu à patauger pendant 3 jours comme il l'a fait. Et politiquement, j'imagine les candidats aux législatives du camp macroniste pendant 3 jours, voyant ces images passer à tour de bras avec des ministres qui essayaient de renvoyer la balle vers les Anglais pendant que la presse étrangère a tourné en dérision notre prétendue capacité à organiser des événements internationaux. Et puis c'est la leçon d'un plantage. Emmanuel Macron l'a lui-même fait savoir auprès de Gérald Darmanin. Et la nouvelle Première ministre, Madame Borne, n'a pas non plus aimé tout cet épisode.
Oui, nier. On ne sait pas si le coq a sifflé trois fois, mais en tout cas, effectivement, Gérald Darmanin a nié. Jérôme Béglé pour le JDD.
La France a hérité de l'organisation de cet événement parce qu'elle a demandé. Et Dieu qu'on était fiers de pouvoir dire qu'on organisait ça à la place de Saint-Pétersbourg.
Oui.
On est à la barbe des Anglais, des Allemands, des Espagnols, des Italiens.
Tout le monde avait demandé.
Bon. Donc, la moindre des choses quand on réclame l'organisation d'un événement, c'est qu'on doit être sûr, ou en tout cas quasi persuadé, que ça se passera bien. Difficilement dire après, on a eu que 100 jours pour le faire. On savait qu'on avait que 100 jours pour l'organiser. Pardon. Ou un peu moins. Bon. Après, moi, je reste. Vous savez, le déni français, c'est profondément ancré en nous. C'est-à-dire qu'on ne sait pas mettre les bons mots sur ce qu'on voit. Je crois qu'on ne sait même plus voir ce qu'on voit, si je voulais encore mettre ça en abîme. Et que bon, ça se manifeste de haut en bas de l'échelle. J'ai regardé les quasiment 3 heures de commission d'enquête, en tout cas
d'audition des
deux ministres des Sports et de l'Intérieur. On allait dans le moindre détail, dans des choses qui étaient même absolument hallucinantes, mais enfin, on n'avait pas du tout, on n'a pas du tout parlé des racailles, comme dit Louis, en tout cas des bandes qui sont venues attaquer les supporters espagnols, anglais, français. On avait à la minute près l'heure à laquelle tel RER quittait telle gare et tant de personnes à l'intérieur.
Pourquoi?
Enfin, le reste, on voyait pas.
Pourquoi on n'en parle pas? Je sais que Louis a en partie répondu à la question. Pourquoi?
J'en sais rien. Parce que
c'était la première version du gouvernement. La première version du gouvernement et la communication du préfet de police de Paris, c'est de pointer les supporters violents et la question des faux billets. Et c'est vrai que c'était plutôt arrangeant de présenter cette version-là, puisque on expliquait que c'était la faute aux Anglais et que c'était pas la faute en fait aux autorités françaises, puisque précisément ce sont des ressortissants français ou alors des clandestins, des mineurs isolés qui ont attaqué les ressortissants.
Comme vous le disiez, Bruno, jeudi, les photos parlent d'elles-mêmes. Dans votre article, voilà, extrait d'une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux des CRS repousse des reskieurs. Beaucoup sont hilars. Ils sont morts de rire. Ils sont très contents de leur coup.
Ah, mais les photos sont, tout est dit dans les photos. Je veux dire, ils peuvent tourner ça comme ils veulent. Jérôme le dit, c'est le déni français. Et là, c'était le déni ministériel. Je suis d'autant plus frappé que le même Gérald Darmanin, il y a 2 ans, lorsqu'il arrive au ministère de l'Intérieur, c'est lui qui parle de l'ensauvagement. C'est lui qui se fait attaquer par une partie des gens de la majorité à laquelle il appartient, justement parce que il posait des mots sur ce qui se passe vraiment. Gérald Darmanin, 2 ans plus tard, il a été transformé. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Et peut-être absorbé par la machine. Peut-être aussi, je trouve qu'on est dans un week-end de l'Ascension.
Oui.
Il y a peut-être aussi les politiques...
Là, c'est la Pentecôte, là.
Peut-être, le week-end dernier, c'était
l'Ascension.
Baisser un peu la garde. Je trouve qu'il a repris un peu rapidement la note. Il a pris à son compte la note du préfet de police. De
monsieur l'Allemand.
Comme argent comptant, les 30 à 40 000 faux billets ou spectateurs sans billets, c'est dans la note et il le reprend à son compte. Peut-être qu'il s'est un peu précipité, je ne sais pas.
Louis de Ragnel.
Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu un week-end de flottement. Ce que je peux vous raconter, c'est que le samedi soir, les alertes qui remontent de la préfecture de police de Paris au ministère de l'Intérieur, donc pilotées par Gérald Darmanin, expliquent peu ou prou, globalement, il s'est passé ce qui se passe à un match habituel. Il y a eu un peu de tension, mais tout est rentré dans l'ordre. Et vous savez, en matière d'ordre public, il y a beaucoup de commissaires qui considèrent qu'une fois que le match est terminé, que tout le monde est rentré à la maison, bon, peu importe un peu ce qui s'est passé avant, l'essentiel, c'est que autour du Stade de France, il ne se passe plus rien. Et donc, oui, il y a eu un petit flottement avec des personnes qui devaient être de permanence, qui n'étaient pas là. On voit bien, pendant l'audition parlementaire, moi, ce qui m'a le plus frappé quand on écoute Gérald Darmanin et la ministre des Sports, Madame Oudéa Castéra, c'est qu'en fait, à la fin, on se demande mais qui pilote ? Qui était l'organisateur? Et donc la réponse, c'est qu'il n'y avait pas d'organisateur en chef. Il y avait une succession de
Il y a des arguments qui sont absolument valides. C'est vrai que l'UEFA délègue l'organisation à la Fédération française de foot, qui ensuite organise la finale avec le consortium du Stade de France. Donc il y a un enchevêtrement de responsabilités.
Après, Gérald Darmanin n'est pas
de
responsable.
La faute de Gérald Darmanin dans ce qui s'est passé.
Il n'est pas responsable des billets frauduleux. Enfin, voilà. On peut pas lui mettre sur le dos non plus.
Quand l'UEFA autorise les billets papier, par exemple, ce qui a conduit
c'est les Anglais qui ont demandé ça.
Bien sûr, c'est les Anglais.
L'UEFA aurait pu dire non.
Ce soir, il n'y a pas de
billets. Regardez, ce soir, il n'y a pas un seul billet papier.
Ce soir, il n'y a pas de billets. Il y a pas de billets papier. Ça permet d'avoir une organisation plus fluide. C'est vrai que les billets, parce que le problème problème des, de l'entrée dans le stade, pour faire simple avec nos auditeurs, c'est que effectivement les faux billets, les vrais billets, l'informatique ne les reconnaissait plus parce qu'il y a eu des faux billets qui ont été dupliqués
une
dizaine de fois.
À lire cette semaine dans Paris Match, alors que vous titrez sur la couverture en tout cas, et sur Elisabeth II avec ses 70 ans de règne. Merci à vous trois, merci Bruno Jeudy pour Paris Match, Jérôme Béglé pour le Journal du Dimanche, merci à vous.
Merci Pierre.
Mon cher Louis Dragnel,
avec vous à Roland-Garros.
Pour Europe 1, effectivement, nous sommes à Roland-Garros dans un instant, le grand journal de la rédaction à 19h. Et ensuite, avec Pour l'écho, le magazine de l'économie, on s'intéresse à l'Europe. Better, faster, stronger, aurait-on envie de dire. Comment rendre l'Europe compétitive? A-t-on à jamais raté le métro face aux Chinois et aux Américains? On verra cela, à tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve. Stronger.
Eh ben oui, on aimerait bien qu'elle soit better, faster and stronger, meilleure, plus rapide, plus forte, cette Europe, si elle devenait puissante. C'est le titre du journal Pour l'écho avec lequel nous sommes partenaires. Si l'Europe devenait puissante, sur la couverture qui est bien faite, je le disais tout à l'heure en préambule, vous avez trois requins énormes qui sont la Chine, la Russie et les États-Unis face à un banc de poissons qui sont l'Union européenne. Donc vous voyez cette couverture absolument incroyable où vous avez effectivement ce banc de poissons qui sont l'Union européenne qui vont se faire totalement, littéralement dévorer par les trois requins et qui se font d'ailleurs dévorer. Pourquoi est-ce que je parle au futur alors que c'est déjà le présent? J'accueille autour de moi Clément Rouget. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste économique, responsable web éditorial de Pour l'écho. Bonsoir à Henri Sterdignac.
Bonsoir.
Vous êtes directeur adjoint du département économique de l'Observatoire français des conjonctures économiques, et en direct de Varsovie avec nous, Maciej Witucki. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président du Léviathan, qui est, pour faire simple, l'équivalent du MEDEF polonais. Est-ce que nous sommes arrivés à la fin d'un modèle? À quoi ça sert de continuer coûte que coûte dans l'Union européenne qui finalement ne plaît à personne? Est-ce qu'il y a une forme de paresse pour ne pas tout changer? On parle souvent de réformes structurelles au niveau interne, au niveau gouvernemental. Pourquoi est-ce qu'on ne change rien au niveau de l'administration européenne? Clément Rouget, d'abord, pour le journal Pour l'écho, qu'est-ce qui vous a donné envie de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas?
Bah, c'est assez simple. Avec les deux crises qu'on vient de connaître, qui sont à la fois la pandémie et la guerre actuelle, il y a eu un mouvement qui s'est enclenché. Vous avez parlé un petit peu de l'inertie en Europe, du fait que ça bouge pas. Là, ça a bougé. Ça a bougé beaucoup sur l'achat groupé de vaccins, sur une mise de dette commun pour faire un plan de relance. Ça a bougé sur la défense. Et donc, on a voulu parler de ça, de ces transformations face aux crises et du fait que finalement, c'est dans les crises que l'Europe se révèle, en quelque sorte.
Vous êtes d'accord avec ça, Henri Sterdignac?
Oui.
Dans les crises que l'Europe se révèle?
L'Europe est une construction ni fait ni à faire. Hein. C'est un édifice en construction permanente avec d'un côté des gens qui sont fédéralistes, qui veulent que de plus en plus l'Europe prenne des initiatives, que l'Europe prenne de plus en plus de pouvoir. Et puis d'autre part, on a des États qui sont réticents pour telle ou telle raison, qui dépendent d'ailleurs des sujets. Les uns sont réticents à propos des questions fiscales, d'autres des questions d'énergie, d'autres des questions de migration. La France, bien sûr, ne va pas laisser sa place au Conseil de sécurité. Donc tout ça fait que c'est une entreprise chaotique qui avance péniblement, mais qui avance quand même.
Nous avons pu choisir le patronat français, l'éternel MEDEF, mais nous avons choisi le Léviathan, qui est l'équivalent du MEDEF polonais, en tout cas l'ensemble des entrepreneurs de Pologne. Vous qui êtes à l'est de l'Europe, Maciej Witucki, comment est-ce que vous voyez les choses, sachant que les Polonais, ils sont pas encore entièrement dans l'Europe, puisqu'ils sont pas dans la zone euro.
Oui, mais par contre, si vous regardez les sondages d'appui à la construction européenne, à l'appartenance à l'Europe, nous sommes dans le champion du continent. Donc ça, on n'est pas encore dans la zone euro, ça c'est encore des décisions politiques. Mais pour revenir à votre question initiale et à cette couverture avec les bons de poissons, on n'a pas de choix. Est-ce que nous avons un autre choix? Est-ce qu'il y a un quelconque des pays de la construction européenne qui prétendent pouvoir faire face à la Chine, aux États-Unis. Il y a déjà, d'ailleurs, peu de pays qui ont même le potentiel de l'Ukraine, 50 millions d'habitants, un tissu industriel important. Donc on n'a pas de choix. Je dirais, cette construction européenne, et ça, on le voit en Pologne, quoi qu'ils en disent notre gouvernement actuel, nous n'avons pas d'autre choix. Cette construction européenne est la seule option pour que les 500 millions d'habitants de notre continent puissent déjà vivre en paix. Deuxièmement, mais le plus important, c'est de développer, parce que si on se redécoupe en nations qui vont essayer de gagner leur place pour défendre le siège français au Conseil de sécurité, ou pour défendre l'anti-nucléaire des Verts allemands, ben on trouvera jamais une solution pour nos peuples et pour nos entreprises. Donc nous,
mais il faudrait qu'encore que oui, mais il faudrait encore que les peuples soient unis, et là soient unis plutôt. Il y a quand même pas une osmose particulière entre justement les pays dont vous faites partie, qui sont les pays à l'est de l'Europe, les pays du sud, la France, l'Allemagne et les autres. C'est difficile déjà de prendre une décision commune pour ensuite affronter les autres, si j'ose dire.
Oui, mais je pense que c'est pas une question des peuples, c'est une responsabilité des politiques. D'ailleurs, si on parle des difficultés de l'Europe aujourd'hui, n'oublions pas que aussi bien le gouvernement polonais que le gouvernement français ou allemand, chaque fois qu'il y avait une décision difficile, on critiquait Bruxelles, la fameuse Bruxelles. Donc il ne faut pas s'étonner si au bout des années, après avoir parlé des anecdotes de style la courbe de la banane, que maintenant les peuples soient un peu réticents. Mais en même temps, si vous demandez à un Polonais, un travailleur ou un entrepreneur, il vous dira il est européen et il veut appartenir à cette Europe. Et d'ailleurs, la crise actuelle, elle fait rebalancer la Pologne vers la zone euro. Donc si vous demandez aux entrepreneurs, on a déjà été favorable à l'euro depuis longtemps. Maintenant, même les Polonais qui voient l'inflation qui est quand même à 15% chez nous, quand elle est à 7% moyenne ailleurs.
Parce qu'il n'y a pas de bouclier tarifaire peut-être chez vous.
Bah, il y a des boucliers, il y a des opérations sur place, mais il y a aussi de la spéculation sur la devise. Donc ça fait que du coup c'est et puis il y a aussi la stabilité, l'indépendance de la banque centrale n'est pas la même que la banque européenne. Donc soudainement, même un Polonais lambda est devenu plus européen avec cette crise, parce qu'on voit effectivement, et c'est pas que la dernière crise. N'oublions pas que même la première crise financière, c'était le premier moment où l'Europe a commencé à bouger. Donc quelque part, malheureusement, c'est les crises qui font bouger la construction. Et il faut espérer que cette accumulation des crises poussera aussi vers une accumulation de décisions qui vont pousser la construction européenne.
Mathieu Vitoutsky, Henri Sterdignac et Clément Rouget sont là pour parler de cette Europe. Et si elle devenait puissante, est-ce que c'est un rêve ou une utopie, ou est-ce que c'est possible? On en parle juste après une nouvelle page de publicité. À tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Avec autour de moi Henri Sterdignac, directeur adjoint à l'OFCE, avec Maciej Witucki, le président du Léviathan en Pologne, avec Clément Rouget, journaliste économique, responsable web éditorial de Pour l'écho, ce magazine avec lequel nous sommes partenaires pour ce titre accrocheur. Et si l'Europe devenait puissante? Messieurs, peut-être Henri Sterdignac, on parle souvent de souveraineté, mais est-ce qu'on parle de souveraineté européenne ou de souveraineté multi-étatique? Et je reprends la couverture de Pour l'écho avec le fameux banc de poissons, parce que une unité, c'est une chose, mais une unité formée de plusieurs petits poissons qui vont se faire bouffer par des requins, c'est quand même autre chose.
D'abord, je voudrais dire qu'il est possible de quitter l'Europe. On a eu l'exemple du Brexit, de la Grande-Bretagne, donc c'est une possibilité qui est offerte aux grands pays, peut-être pas aux pays. Au petit pays, mais enfin c'est un choix politique, et par ailleurs naturellement ça dépend des problèmes. L'Europe, il faut le répéter, c'est pas un pays, c'est-à-dire que spontanément les gens ne se considèrent pas comme membres d'un même pays. Ils sont pas prêts à une solidarité totale comme on est prêt à une solidarité à l'intérieur d'un pays. On a des systèmes de protection sociale, des budgets qui sont autonome, on a des démocraties différentes, et c'est très dur effectivement d'arriver à une position commune. On le voit pour la défense, on est arrivé à rien avant que, heureusement, si on peut dire, on a cette crise en Ukraine qui nous dit il faut faire quelque chose, et encore on le fait quand même en grande partie sous le parapluie américain, mais dans un grand nombre de sujets, chacun pour soi, pour l'énergie. Oui. On a le problème spécifique, on a la Pologne avec ses mines de charbon. Est-ce qu'on est prêt à payer les Polonais pour qu'ils abandonnent le charbon? Est-ce qu'on est prêt à payer les Hongrois actuellement pour qu'ils n'importent plus de gaz russe? Tout ça, ça ne se fait pas spontanément et c'est une très très l'Europe est une très très longue c'est une très très longue construction. Hein. Regardez par exemple la retraite. On n'est pas prêts, nous les Français,
de s'aligner,
de dire bah, dans 50 ans on aidera l'Italie, l'Allemagne qui seront dans des situations pires que nous parce qu'actuellement ils n'ont pas d'enfants. Donc l'Europe c'est une situation intermédiaire. Et c'est ça qui fait la difficulté et le charme de l'Europe.
Mais le charme effectivement à travers les paysages, mais quand vous voyez les situations économiques, c'est autre chose. Et pourtant, Clément Rouget, il y a une foison, un foisonnement de programmes. Programmes économiques, le programme JEDI qui a pour ambition de soutenir le développement d'innovations scientifiques et technologiques en Europe. Il y a des programmes agricoles, il y a des programmes sur la structuration. Les programmes, c'est hallucinant. Et donc on a l'impression qu'on avance tous ensemble et en réalité il y a quand même des pays qui disent oui et des pays qui disent non.
Ah, c'est sûr que quand on demande des efforts de solidarité sur des sujets extrêmement importants, que ce soit en France ou ailleurs, c'est toujours des choses compliquées et c'est encore plus compliqué quand il n'y a pas de culture commune. Après, regardez sur le chargeur universel, on vient d'apprendre aujourd'hui qu'on allait avoir un chargeur universel partout en Europe et ça va faire gagner 250 millions d'euros aux consommateurs européens. Donc c'est des petits pas et évidemment c'est pas des sous-marins nucléaires ou le Conseil de sécurité de l'ONU, mais c'est avec des petites choses aussi comme ça qu'on peut avancer et c'est ce type de mesure aussi que permet l'Europe. Typiquement, sur le RGPD, c'était une norme européenne et qui s'est imposée...
Sur la protection des données.
Absolument, sur la protection des données quand on navigue sur Internet, qui est quand même un enjeu important, bah ça a fait écho et ça s'est répandu à travers le monde. Donc voilà, l'Europe peut quand même agir dans les vies quotidiennes et dans l'Union. Et puis, vous parlez des projets sur l'innovation, sur des technologies...
Il y en a plein. Hein. Ça, on peut le lire dans votre journal. Par exemple, page 26, l'Europe se lance enfin... Et le « enfin » est important dans le titre, dans la course aux puces. Il y a le retour programmé du productivisme agricole qui, on sent bien que la PAC, c'était un truc qui somnolait et on ne savait pas trop comment ça marchait. Bruxelles, alors ça c'est pareil, ça c'est. Mais vous voyez, vous êtes dans la logique de si l'Europe était grande et puissante, si Bruxelles avait sa DARPA pour muscler l'innovation. Enfin.
Ah mais l'Europe n'est pas parfaite, hein, et c'est évident. Et d'ailleurs, si elle est en pleine transformation, et si on salue sa transformation, c'est qu'avant, elle n'a pas été parfaite, de fait. Mais aujourd'hui, elle se réveille face aux crises. En fait, il y a cette idée que l'Europe, elle était faite pour un monde très calme, très paisible, où les commerces étaient ouverts, où la mondialisation était paisible. Le problème, c'est que la réalité est venue casser ce rêve-là. Et aujourd'hui, elle s'adapte, elle essaye. Mais après, c'est intéressant, parce que vous parliez des investissements dans les technologies. Il y a une notion qui est importante au niveau européen, c'est la taille critique.
Oui. Alors ça, c'est quoi ?
La taille critique, c'est le fait d'avoir un marché de consommateurs de 500 millions de personnes. Si ce que font actuellement les pays européens sur l'hydrogène, par exemple, qui est un peu le futur de l'énergie potentielle, chaque pays va mettre 10 milliards, 7 milliards d'argent public sur le projet. Bah, ce serait plus efficace s'ils le faisaient ensemble. Et c'est la même chose sur les questions de défense. On dépense plus que la Chine ou la Russie par somme, mais en étant moins efficace. Il y a des points comme ça où en s'unissant, en ayant une taille de marché critique, en ayant un fonds groupé, comme on a fait pour les vaccins par exemple, eh ben, on est plus efficace et on est au service des gens.
Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu Witowski ? On peut y arriver ?
Ah, je pense que absolument, on peut y arriver. Et je pense que même en restant optimiste qu'on voit d'y arriver, il y a des régulations à changer. Parce que aujourd'hui, j'étais à une réunion de tous les MEDEF, enfin, comme ça, pour continuer à simplifier, tous les MEDEF européens à Prague. Et on parlait de la souveraineté énergétique. Et j'ai découvert avec ma stupeur que l'on préfère importer, par exemple, de l'uranium en Europe pour des centrales nucléaires des pays tiers, parce qu'on ne veut pas ouvrir des mines, les Suédois ne veulent pas ouvrir des mines d'uranium qui est présent dans leur pays, parce qu'il y a une loi qui l'interdit explicitement. On a d'autres ressources qui existent en Europe, mais qu'on n'a pas exploitées, on a préféré quand même sous-traiter ça à des pays de l'Amérique du Sud ou d'Afrique. Donc là, il y a comme des régulations à revoir pour cette souveraineté des ressources. Il y a des capacités, même des minéraux, parce qu'on pensait toujours que, intellectuellement, nous sommes valables, mais on n'aura jamais de matières premières. Mais si, il y a des matières premières, mais sauf qu'il faut commencer à les exploiter aussi chez nous. Maintenant, la taille des projets, c'est notre élément. Moi, j'ai jamais compris pourquoi l'Europe se lance à faire un Facebook européen ou veut lancer un Facebook européen, le plus important pour l'Europe, c'est un translateur, une opération de la traduction automatique, parce que pour que les marchés soient communs, pour que les boutiques puissent se développer, on devrait avoir une capacité, on devrait être les champions de la traduction automatique dans toutes nos langues. Donc il y a le potentiel.
D'ailleurs, le paradoxe, c'est qu'on parle l'anglais alors qu'il n'y a plus les anglais dans l'Europe.
Et oui, Tout le monde parle anglais. Mais les éléments sont là. Les éléments sont là, y compris d'ailleurs les matières premières. Et si en plus on a la possibilité d'intégrer quelque part l'Ukraine, il y en aura encore plus parce qu'il y a les gaz, il y a la nourriture. Donc il y a des options de croissance, mais il faut absolument que l'on commence quand même sous la pression des crises.
Oui, ça ne sera pas avant 20 ans l'adhésion de l'Ukraine à l'Europe, si jamais elle se fait. Henri Sterdyniak, sur les questions énergétiques justement qu'évoquait Mathieu Vitt, ce qui est intéressant.
L'Europe a pris des engagements. Enfin, un des forces de l'Europe, si on peut dire, c'est qu'on est quand même en avance sur les sujets de la lutte contre les gaz à effet de serre. On a pris des engagements extrêmement rigoureux qu'on va essayer de tenir. Alors effectivement, c'est conflictuel parce que certains éléments du patronat disent non, ça va nuire à notre compétitivité. Il y en a d'autres qui disent au contraire, ça va nous donner de l'avance par rapport aux pays qui vont être en retard par rapport à nous sur ce sujet. Hein, l'Europe, il y a des débats, c'est tout à fait normal. Et en plus, naturellement, les pays ne sont pas dans la même situation. Ouais. Les pays du Sud peuvent avoir du solaire, les pays, la Pologne tient à son charbon, et tout ça, ça demande des débats, et c'est pour ça qu'on a du mal à arriver à...
Je ne sais pas si la Pologne tient à son charbon. Est-ce que la Pologne tient à son charbon, Mathieu Vitouski?
Absolument pas. La Pologne sait parfaitement que demain, nos jeunes, quand ils vont voir un verre transparent par définition, ils vont comme regarder si au-dessous, il y a une partie verte fabriquée avec de l'énergie propre ou une partie noire fabriquée avec du charbon. Donc la Pologne ne tient absolument pas. C'est des fausses motivations politiques où pour quelques 40 000 ou 50 000 emplois dans les mines polonaises, on défend une industrie et on pourrait très facilement trouver de l'emploi. La Pologne est un pays de plein emploi. On pourrait facilement employer ces gens-là dans les meilleures conditions. Et c'est plus une question de timing de transition. Mais la Pologne, les industries polonaises comprennent bien qu'on ne va pas être compétitif avec l'énergie noire.
Clément Rouget, qu'est-ce qui bloque en premier sur la grande pile des dossiers qui s'accumulent en disant par où commencer? Qu'est-ce qui bloque en premier pour qu'il y ait plus de facilité à tous ces vœux pieux presque que vous mettez dans ce journal avec lequel nous sommes partenaires?
On voit bien que sur la question de défense, c'est très compliqué. Hein. Ça a été mentionné tout à l'heure. On touche au cœur de la souveraineté nationale. Et là, c'est très compliqué. Juste revenir sur l'énergie. Aujourd'hui, on a encore appris qu'il y allait avoir une grande avancée. Les États européens allaient être contraints par l'UE de faire des batteries électriques tous les 60 kilomètres. Et ça, c'est important en termes d'accompagnement de la transition énergétique, où on a un cadre européen qui se met en place et où les constructeurs, les consommateurs savent que dans quelques années, il y aura des bornes électriques partout. Voilà, c'est ce genre de piste où ça peut guider et faire avancer les choses.
En tout cas, le dossier est très complet dans le journal pour l'Écho. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été ici à Europe 1. Clément Rouget, Henri Sterdyniak, Maciej Witowski de Varsovie en direct. Merci à vous. Dans un instant, bien sûr, Service Pioline. Et on revient sur ce drame absolument abyssal, incroyable qui a eu lieu sur le central, l'abandon de Zverev sur blessure. Et quelle blessure! À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.